Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est rabbin et elle publie « Réflexions sur la question antisémite » aux éditions Grasset.
Delphine Horviller, bonjour.
Bonjour.
Des insultes dites ou même écrites sur des pancartes, sur des ronds-points, des gestes qu'on appelle donc « quenelles ». Avec les gilets jaunes ces derniers samedis, que diriez-vous ? Vous diriez qu'il y a eu des dérapages antisémites ?
Il y a eu incontestablement des dérapages antisémites. Ces dernières années, il n'y en a pas eu que au sein du mouvement des Gilets jaunes. Il ne faudrait pas résumer le mouvement à ces dérapages-là. Mais c'est vrai qu'en marge, on a assisté à des dérapages. Je ne sais même pas si le mot est celui qu'il faudrait utiliser. Voilà, en tout cas, des manifestations, des mots, des pancartes qui sont pour le moins troublantes, mais qui sont finalement pas complètement surprenantes. Parce que quand il y a un mouvement de colère, finalement, bien souvent, historiquement, on le sait, potentiellement, il est récupéré ou il va activer ou ouvrir des boîtes traditionnelles dans lesquelles parfois l'antisémitisme a sa place.
Mais là, on voit bien qu'on n'est pas, si on reste quelques instants encore sur les ronds-points, on voit bien qu'on n'est pas dans une affaire de communauté, on n'est pas dans une affaire de juifs contre musulmans sur fond de conflit israélo-palestinien importé, ce qui est souvent une explication.
C'est souvent l'explication qu'on met en avant, mais effectivement là, c'est pas du tout le sujet. Il faudrait pas ramener ça à une problématique de ce type, à une problématique antisémite. Mais c'est vrai qu'on a des marqueurs à la fois qui sont activés, qui sont des marqueurs traditionnels parfois de l'antisémitisme. Par exemple, la question de la contestation du pouvoir et la proximité qu'auraient les juifs avec le pouvoir. Vous savez, ça c'est un marqueur traditionnel de l'antisémitisme à travers les temps. Cette idée que les juifs auraient un peu plus de pouvoir ou qu'ils seraient un peu plus proches de ceux qui en ont. Ça, malheureusement, ça a été activé à travers les siècles et c'est parfois activé par certains aujourd'hui.
La colère, la haine, le complotisme aussi, ça c'est l'ambiance globale qui entoure l'antisémitisme, enfin qui accompagne le surgissement.
Oui, et puis aussi une sorte de lecture simplifiée de l'histoire, l'idée que la colère va mettre en place une recherche de coupable, de responsable, et puis le coupable et le responsable, c'est forcément, on le voit très bien dans la théorie complotiste aujourd'hui, l'idée qu'il va y avoir un responsable qui va expliquer la faille ou la faillite de mon existence, et bien souvent malheureusement le juif, mais pas seulement le juif, a été ciblé comme étant celui-là, comme étant finalement l'agent responsable ou l'agent contaminant, ou la faille de la société.
Vous diriez quoi ? Alors là, si on dépasse en effet ces dernières semaines, si on prend un peu plus de recul, est-ce que vous diriez que ces dernières années on vit un moment plus antisémite qu'un autre ou bien un moment de plus grande tolérance à l'antisémitisme ?
L'antisémitisme, il a toujours existé, en réalité, il a jamais vraiment disparu. Mais c'est vrai que ces dernières années, il est parfois toléré ou accepté ou justifié. On va lui trouver des explications particulières. Moi, c'est vrai que j'ai toujours en tête ce moment terrible à Toulouse de l'assassinat des enfants
par Mohamed Merah
dans une école. Et ce moment où finalement, d'abord cette incompréhension jusqu'à aujourd'hui de qu'est-ce qui a fait que la France n'était pas dans la rue à ce moment-là. Comment est-ce possible de comprendre que des enfants assassinés dans une cour d'école n'aient pas mis à ce moment-là la France entière dans la rue. Et puis, toutes ces tentatives de justification ou d'explication, vous les avez nommées il y a un instant, qu'on a entendu à l'époque, c'est une importation du conflit israélo-palestinien, ce sont des tensions intercommunautaires, une façon de ne pas vouloir voir en face quelle était la responsabilité de tout un chacun, la responsabilité nationale, ce qui se mettait en place, ce qui était en jeu à ce moment-là, ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, c'est que l'antisémitisme, c'est toujours une vitrine, un précurseur d'une violence beaucoup plus large qui touche la société. Sauf qu'au moment où cet antisémitisme a lieu, on ne veut jamais voir, en réalité, le caractère transcendant de la violence qu'il exprime. C'est-à-dire qu'on veut le limiter, le contenir, et surtout pas voir ce qu'il dit, encore une fois, d'une faille beaucoup plus large de la nation ou du groupe qu'il exprime.
C'est ce que vous dites aux gens qui vous disent, par exemple, c'est le problème des juifs, ce ne sont pas les seules victimes du racisme ordinaire, il y a bien d'autres victimes. Finalement, ici, c'était le problème seulement des juifs. Vous leur dites non, vous aussi, vous êtes en danger ?
Moi, je dis que l'antisémitisme, précisément, c'est pas le problème des juifs. C'est-à-dire que vraiment, l'antisémitisme, c'est le problème d'une nation, d'un groupe, d'une famille, d'un clan, d'une tribu qui l'exprime. À travers l'antisémitisme, se dit quelque chose d'une incapacité à gérer une faille ou une faillite ou un manque ou des échecs de l'existence. violence. Ça commence par l'antisémitisme, mais très clairement, ça devient le marqueur d'une nation. Enfin, on utilise très souvent cette image du canari dans la mine que vous connaissez peut-être. On dit que les miniers, lorsqu'ils voulaient savoir si une mine était condamnée, envoyaient des canaris. Lorsque le canari s'arrêtait de chanter, c'est que la mine était condamnée, qu'il y avait une fuite de gaz toxique. Et bien souvent, les Juifs ont joué ce rôle dans l'histoire lorsqu'ils s'arrêtent de chanter, lorsqu'ils sont menacés. Quelque chose qui les transcende et menacé.
Le regain de l'antisémitisme, c'est un phénomène français, on le voit dans les chiffres, dans le nombre d'actes antisémites. C'est aussi un phénomène européen, c'est un phénomène même américain, on a vu la tuerie de Pittsburgh. Dans le livre que vous venez d'écrire, il y a quelque chose de très intéressant, vous faites le rapport entre l'antisémitisme et la recherche d'une virilité qui serait perdue, la recherche, un problème d'identité masculine. On pense à Trump, on pense à Bolsonaro.
Oui, encore une fois, c'est peut-être une difficulté à gérer la faille, quelque chose de l'ordre du féminin dans l'identité. Moi, je me suis intéressée beaucoup dans le livre au lien permanent qu'il y a eu dans l'histoire entre l'antisémitisme et la misogynie. Il se trouve que tout au long de l'histoire, on a accusé les juifs et les femmes d'à peu près la même chose, c'est-à-dire d'être hystériques, ou d'aimer l'argent, ou d'aimer le pouvoir, ou d'être lascifs. Enfin, on a retrouvé les mêmes marqueurs d'accusation contre les femmes et contre les juifs, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'une quête d'identité complète qu'on associe bien souvent au masculin, de façon un peu caricaturale.
Delphine Horviller, vous êtes un leader religieux. Le gouvernement veut structurer non pas le judaïsme, mais l'islam de France, et ça commencera par une réforme de la loi de 1905, celle qui organise la séparation de l'Église et de l'État. Qu'en pensez-vous ?
Je crois que depuis des années, cette question, je ne sais pas s'il faut réorganiser la loi de 1905. Ce que je sais, c'est que cette question est extrêmement prégnante.
Laquelle ?
La question de savoir comment est-ce qu'on pense aujourd'hui ces termes de la laïcité. La laïcité, finalement, depuis sa création, et c'est sa promesse, elle garantit que chaque individu dans la société puisse dire « je », puisse parler à la première personne du singulier contre le « nous » de sa naissance, contre le « nous » de son identité ethnique ou religieuse. Le seul « nous » de la nation serait le nous de la nation. Aujourd'hui, on assiste, et ce depuis des années, à une montée des nous identitaires qui viennent en compétition avec le nous de la nation.
Mais est-ce qu'il faut réviser cette loi ?
Je crois pas.
Qu'en pensez-vous ?
Moi, je crois que cette loi, elle est la garantie d'un cadre qui nous est une véritable bénédiction. Je crois pas qu'il y ait une urgence, moi, à revisiter cette loi aujourd'hui. En tant que rabbin, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de penser comment, à l'intérieur de nos communautés religieuses, à l'intérieur de nos différents groupes, de nos familles, eh bien, on est capable de penser à nouveau le lien entre le « je » et les « nous », entre l'individu et le collectif.
Il y a une pétition qui circule contre la révision, vous la signeriez ?
Ça ne m'a pas été demandé, je n'y ai pas réfléchi particulièrement.
Delphine Horviller, une des trois femmes rabbins de France, seulement trois en effet. Merci d'avoir été sur France Inter. Les réflexions sur la question antisémite, c'est publié chez Grasset.
Bonne année Delphine Horviller, merci Alexandra, à tout à l'heure.